Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, dans 30 minutes, vos réactions au mandat d'arrêt international lancé par la Cour pénale spéciale de Bangui contre François Bozizé. L'ancien président centrafricain est en effet recherché pour de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par sa garde présidentielle entre 2009 et 2013. Seulement, voilà, depuis un an, François Bozizé vit en exil en Guinée-Bissau. Toute la question, évidemment, est de savoir si le président Omar Sissoko Mbalo acceptera de l'extrader vers la Centrafrique. Alors, que vous inspire cette procédure de la Cour pénale spéciale? Vous nous appelez, vous êtes nombreux à nous contacter de Centrafrique. Bien évidemment, ce sujet vous concerne. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70 et vos réactions également sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Nel. Bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour Juan et bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Et merci de nous accueillir à Libreville. Des questions sur le dialogue national qui s'est terminé mardi, puisqu'après 3 semaines de discussion, les recommandations ont été remises au président de la transition, le général Brice Oligui Nguema.
Oui, c'est ça. En effet, je souhaiterais savoir pourquoi, à l'issue du dialogue national au Gabon, les panélistes recommandent la suspension de tous les partis politiques.
Ah ouais. Et sans surprise, cette proposition suscite un tollé sur place, un tollé au sein de la classe politique gabonaise. Bonjour Sébastien Lemaitre.
Bonjour Juan, bonjour Nel.
Envoyé spécial de RFI à Libreville. En fait, Sébastien, les participants du dialogue justifient cette mesure, disons-le, radicale, par le besoin d'assainir, de nettoyer l'environnement politique.
Oui, en fait, au Gabon, on a un peu plus d'une centaine de partis reconnus, et certains d'entre eux, ce sont des coquilles vides. Hein. Ils avaient été créés par l'ancien pouvoir pour miner l'opposition, pour soutenir, donner une sorte de légitimité artificielle à certaines initiatives des autorités. Mais en fait, ces mouvements, ils n'avaient pas d'activité réelle, hein. Ils n'avaient pas de militants, etc. Donc les panélistes ont choisi cette mesure très tranché, on va dire. On remet tout à plat, on suspend tout le monde. Et pendant cette suspension, on écrit de nouvelles règles de création des partis. Et les formations suspendues devront s'y conformer pour pouvoir reprendre leurs activités.
Ouais, sauf que ça pose tout de même de gros problèmes.
Déjà, certaines formations estiment que c'est un viol des libertés d'expression d'association, tout simplement. Donc si la mesure est mise en place, des recours en justice sont tout à fait possibles. Ensuite, les partis légitimes sont mécontents parce qu'ils pensent être mis au même niveau, un peu dans le même sac que les coquilles vides. Et puis chaque parti a des frais, des employés, des locaux, donc des salaires, des loyers à payer. Sans activité, ça va être très compliqué de financer tout ça. Tous reconnaissent qu'il faut quand même un grand ménage, ça c'est clair. Mais beaucoup demandent qu'on renonce à cette suspension. Certains proposent par exemple de laisser les partis tranquilles. Pendant ce temps, le pouvoir écrit de nouvelles règles. Et puis chacun s'y conforme dans un second temps. Et puis ceux qui n'y arrivent pas, ils sont dissous. Ou même, on finance les partis selon le nombre d'élus qu'ils ont. Donc on laisse chacun aller aux prochaines élections. Et puis les coquilles vides n'auront aucun représentant et puis pourraient naturellement disparaître.
Ouais. Nel, vous avez une question également sur une autre des recommandations qui fait polémique.
D'accord. En effet, oui. Comment expliquer qu'il ait souhaité rendre inéligibles les leaders du Parti démocratique gabonais pendant 3 ans?
Oui, en fait, Sébastien Lemaitre, le PDG, l'ancien parti au pouvoir, est désigné finalement comme étant à l'origine de beaucoup de problèmes dans le pays.
Alors, il est accusé effectivement d'avoir détourné massivement de l'argent, d'avoir triché aux élections, etc. Donc c'est lui qui serait responsable, donc qui doit être puni. L'inéligibilité va lui poser un gros problème, parce que ça voudra dire qu'à l'issue des prochaines élections, le parti n'aura aucun élu. Et sans élu, le PDG pourrait avoir du mal à se financer et pourrait carrément disparaître. Donc pour certains responsables du parti, cette mesure d'inéligibilité sera en fait une dissolution qui ne dit pas son nom un peu. dissoudre aurait peut-être été trop radical, donc on prend une mesure intermédiaire, mais qui peut mettre le mouvement en danger. Et puis il n'y a pas que ça, hein. Le dialogue a demandé que les leaders demandent pardon à la nation, que des enquêtes soient ouvertes contre ses responsables, etc. Ce qui fait dire à ces leaders qu'en fait, on cherche à se venger, à s'acharner contre le parti, alors que le dialogue national était censé rassembler la nation.
Et rappelons tout de même, Sébastien Lemaitre, c'est important qu'il s'agit là de recommandations. Charge maintenant au président de la transition de mettre en place ces mesures. Nel, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, très bien. Merci à vous et merci à vos équipes.
Et à Sébastien Lemaitre, notre envoyé spécial à Libreville, et les conclusions du dialogue, on en reparlera demain dans la Libre Antenne. Vous êtes nombreux à souhaiter vous exprimer justement sur cette proposition de suspendre les partis politiques. Il est 9h16 à Libreville, 10h16 ici à Paris. On repasse au standard avec d'autres questions sur l'actualité. Bonjour Romain.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Et merci de nous appeler de Bangui. Vous avez des questions sur l'élection présidentielle au Tchad. Le scrutin se tiendra dans quelques jours, ce sera lundi. On vous écoute.
Absolument Juan. Au Tchad, l'Agence nationale de gestion des élections a interdit de photographier les PV du scrutin. Alors pourquoi une telle décision ?
Ah, pourquoi une telle décision ? C'est vrai que l'agence chargée d'organiser les élections a mis en garde tous les candidats. Pas question de photographier et de filmer les procès-verbaux de dépouillement du scrutin. Bonjour Ezra Zikoumana.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Envoyé spécial de RFI à N'Djamena, expliquez-nous pourquoi il est interdit de photographier les PV.
Eh bien, ce qu'il faut d'abord savoir, Juan, c'est que cette interdiction de prendre en photo ces PV n'est pas une disposition prévue dans le code électoral tchadien. Eh bien, sachez que le rapporteur de l'ANJ, l'agence nationale qui est chargée de gérer les élections, nous a expliqué que cette agence l'a décidé de sa propre initiative. Il s'agit en fait, c'est une volonté d'éviter les dérapages et autres tensions qui pourraient en découler si certains commençaient par exemple à publier des résultats très parcellaires sur les réseaux sociaux. Alors il dit qu'il ne faut pas que ça parte dans tous les sens, la situation doit rester sous contrôle. Eh bien, donc il demande à tout le monde de rester calme et de faire confiance à l'ANJ en attendant paisiblement la proclamation des résultats au moment.
Oui, alors faire confiance et attendre paisiblement la proclamation des résultats, c'est là où le bât blesse, Esdras.
Oui, il faut se rappeler que cette décision d'Orange, eh bien, est en quelque sorte une réponse à une directive que venait de donner à ses militants l'actuel Premier ministre Succès Masra, qui est aussi candidat à la présidentielle. Il a appelé ses militants à prendre en photo le jour du scrutin les procès-verbaux de dépouillement des bulletins de vote dans tous les bureaux de vote. De quoi leur permettre par la suite de pouvoir faire le comptage des voix et comparer aux résultats provisoires qui seront proclamés le 21 mai prochain. Son parti, les transformateurs, estime que tout le monde devrait s'en réjouir car cela va permettre de rendre plus transparent et plus crédible la présidentielle de lundi.
Oui, on se souvient que Succès Masra avait effectivement appelé ses militants, je cite, à être la sentinelle du vote. Pourquoi une telle défiance ?
Ah ben, il faut d'abord savoir que cette défiance est largement partagée par de nombreux candidats à la présidentielle, à l'exception du camp de Mahamat Idriss Déby, le président de transition, qui est aussi candidat, comme on l'a constaté. Ces candidats et même les spécialistes du pays rappellent que l'ANJ et la Cour constitutionnelle sont dominés et dirigés par le parti MPS au pouvoir depuis plus de 30 ans, et qui a pour candidat qui le président de transition. Autre argument avancé par ces gens, tous pointent le fait que le code électoral n'a pas prévu d'affichage de ces PV au bureau de vote, ni leur remise aux mandataires des partis politiques. Ouais.
Restez avec nous encore quelques instants, Ezra Zikoumana. Romain, une dernière question à vous poser. Romain.
Oui, est-ce que c'est la petite pour connaître le débat de l'élection ?
Excusez-moi, on n'a pas le décodeur pour décrypter vos propos, Romain. La voix s'est considérablement dégradée, pas votre voix, mais surtout le réseau téléphone. Est-ce que, si j'ai bien compris, est-ce que le fait de ne pas pouvoir photographier les procès-verbaux du dépouillement peut compromettre le bon déroulement des élections ? Ezra Zikoumana, que peut-on répondre ?
Oui, c'est ce que tous disent en cœur. Bien, ces mesures vont à l'encontre de la transparence et de ce qui se fait dans les pays démocratiques, disent-ils, car celui qui veut contester les résultats n'aura pas à sa disposition un document de première main à présenter. L'ANJ a tenté de calmer le jeu, bien sûr, en expliquant qu'ils n'ont rien à craindre, car le code électoral a prévu le cas d'un candidat qui est un contentieux. Il peut alors demander, le moment venu, le PV de n'importe quel bureau de vote du Tchad au démembrement de l'agence dont il dépend et porter plainte à ce moment-là.
Mais finalement,
ce qui ne convainc guère.
Oui, ça n'a pas l'air de convaincre grand monde, en tout cas les transformateurs.
Ah oui, absolument. Les transformateurs, par exemple, se demandent ce que craint l'ange en interdisant de prendre des photos. C'est une décision arbitraire qui montre qu'elle aidait son pipé, dénonce son numéro 2, Sitak Yombatini. Et celui-ci a même prévenu, je cite, « le peuple ne va pas l'accepter ».
Et on suivra en tout cas la fin de cette campagne électorale avec vous, Ezra Zikoumana, envoyé spécial de RFI au Tchad. Il reste encore 3 jours de campagne et le scrutin se tiendra lundi. Merci infiniment. Je rappelle pour tous ceux qui s'intéressent et qui suivent cette campagne et cette élection que les 10 candidats se sont exprimés sur notre antenne et leurs entretiens sont à écouter ou réécouter sur RFI.fr et l'application RFI Pure Radio. 10h21 à Paris, vous nous appelez 33 9 693 693 70. Sinon vous faites comme Herman, il est à Koudougou au Burkina Faso, il nous suit sur les réseaux sociaux et il nous a envoyé une question sur Facebook, on l'a donc rappelé. Bonjour Herman.
Bonjour Monsieur Juan.
Et merci de votre confiance, on va parler football avec vous, football féminin.
Tabitha Shawinga, joueuse du PSG, a été élue meilleure joueuse de la Ligue 1 féminine.
Oui.
Avec 18 buts et 10 passes décisives. Monsieur Wang, j'ai 2 petites questions à vous poser.
Allez-y pour la première.
Quel est le parcours de cette nouvelle figure du PSG?
Ah ouais. Et c'est important de revenir sur ce parcours. J'avoue, Herman, que je ne connaissais pas Tabitha Shawinga avant de lire votre question. Je me suis penché sur son parcours. Il est extraordinaire. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Juan, bonjour Herman.
Journaliste au service des sports de RFI, meilleure buteuse et meilleure passeuse du championnat français. C'est le parcours d'une femme qui aurait pu ne jamais réaliser son rêve d'enfant.
Oui, c'est le parcours d'une petite fille qui est née à Lilongwe au Malawi le 22 mai 1996 et qui a commencé le foot toute petite vers 6 ou 7 ans à Rumphi, un district rural du nord du Malawi. Ses parents ne voulaient pas qu'elle fasse du foot. Elle l'a souvent raconté, à tel point qu'elle se retrouvait parfois, elle le dit assez pudiquement d'ailleurs, sous la dure loi de ses parents lorsqu'elle rentrait de l'entraînement. Elle a dit un jour à sa mère « si tu arrêtes de me frapper, j'arrête le foot ». Elle a tenu que 2 jours, ouais. Cette promesse-là. Shawinga, c'est l'histoire d'une petite fille aussi dont la passion a fait qu'elle n'a joué entre ses 6 et 7 ans qu'avec des garçons. Et c'est quand elle a rejoint la capitale, Lilongwe, qu'elle a intégré pour la première fois une équipe féminine.
Ouais, une passion et un talent qui ont fini par être repérés.
Par un recruteur suédois.
Ouais.
Lorsqu'elle jouait pour le club de Didi Sunshine, Shawinga, elle va vite. Elle a une excellente technique balle au pied. Elle a le sens du but. Et c'est grâce à ça qu'elle atterrit en Suède à seulement 18 ans. J'espère que je le prononce bien. Au club de Krokom Dversats.
Je vous fais confiance.
En 3e division. À cette occasion, elle devient d'ailleurs la première malawite à jouer en Europe. Ouais. Et très vite, elle s'avère trop forte pour la 3e division. Elle rejoint.
Elle termine meilleure buteuse de la 3e division.
Oui, avec 39 buts de mémoire. Ouais. Enfin, un total assez impressionnant. Elle rejoint en 2015 un club de 2e division qui l'amènera jusque dans l'élite, le Kvartsvendens, où elle inscrit 84 buts en 70 matchs.
Et là encore, elle termine première de la meilleure buteuse de la saison.
De toute façon, c'est à peu près une règle. À chaque fois qu'elle est dans un championnat, elle finit meilleure buteuse. Ensuite, elle part pour la Chine, au Jiangsu LFC, là on est en 2018, elle a 22 ans et à nouveau elle survole le championnat en remportant le prix de joueuse de l'année en Super League féminine avant de signer à Wuhan, là on est en 2021.
Ouais, et la Chine lui sort de tremplin.
Vers l'Inter Milan où elle est prêtée pour un an en 2022 et là l'exposition médiatique européenne n'a plus rien à voir avec ce qu'elle connaissait jusqu'ici. Chacun de ses 23 buts, un total qui lui permet d'être meilleure buteuse du championnat italien, chacun de ses buts sont scrutés par les autres clubs européens. C'est Paris qui s'attache ses services l'été dernier, toujours en prêt depuis Wuhan. Et le PSG la recrute parce qu'il avait besoin d'une attaquante pour remplacer Kadidiatou Diani qui était parti à Lyon et pour suppléer Marie-Antoinette Katoto qui était un peu gênée par les blessures. Une excellente pioche puisque Shawinga caracole en tête, vous le disiez Juan, du classement des buteuses avec 18 buts et des passeuses avec 10 offrandes.
Ouais, une dernière question Herman.
Actuellement prêté au PSG par le club chinois de Wuhan.
Oui.
La joueuse pourrait-elle rester à Paris?
En tout cas, c'est ce que souhaitent ses partenaires au PSG.
Et notamment Grace Gayoro, l'internationale française. Il faut la garder à tout prix, c'est ce qu'elle a dit lors de la remise du prix de meilleure joueuse de D1 Arkema. Elle n'est pas la seule à le penser. Il y a des discussions qui sont en cours entre le club parisien et l'agent de Tabitha Shawinga. Est-ce que ça sera pour une prolongation de prêt, un transfert définitif? En tout cas, les chances de la voir rester sont plutôt grandes. Gérard Prêcheur, l'entraîneur parisien, a tout fait pour qu'elle vienne et il veut pouvoir compter sur elle parce que cette saison, Paris a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions. Shawinga a marqué 4 buts. Leur ambition commune, c'est d'aller chercher cette Ligue des Champions.
Ouais, en tout cas, Shawinga, elle est rapide. Elle enchaîne les buts et les passes. C'est finalement ce qui manquait hier à l'équipe masculine du PSG face à Dortmund.
Elle aurait sûrement servi, effectivement, son sens du but aurait peut-être aidé les Parisiens hier soir.
En tout cas, merci infiniment Antoine Grenier je vous invite tous à réécouter justement ce parcours extraordinaire sur l'application Pure Radio et d'ailleurs sur notre chaîne WhatsApp RFI Appel sur l'actualité. Le quiz du jour est vraiment facile. Hein. On vous pose une question toute simple si vous avez été attentif. De quelle nationalité est Tabitha Shawinga? Zimbabwéenne, malawite, zambienne? Je regarde en direct et je vois que la bonne réponse est largement en tête. Donc, vous nous suivez attentivement. À bientôt Antoine et un grand merci à Herman qui nous suit à Kodougou au Burkina Faso. Il nous reste 4 minutes. Bonjour Ousmane.
Bonjour Monsieur Gomez.
De l'autre côté de l'Atlantique, vous êtes dans le New Jersey.
Oui, oui, effectivement Monsieur Gomez.
Soyez le bienvenu. Vous avez des questions sur le marché automobile chinois?
Oui. Le week-end dernier avait eu lieu le salon de l'automobile à Pékin.
Oui.
J'ai appris que la Chine était devenue le premier exportateur mondial de voitures. Comment expliquer une telle attractivité, Gomez?
Alors, je vais essayer de vous répondre, Ousmane. Enfin, pas moi. Tommaso Pardi, que nous avons contacté. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile. La Chine est non seulement le premier fabricant de voitures au monde, mais depuis l'année dernière, il est le premier exportateur planétaire. Pourquoi les voitures chinoises sont-elles si prisées?
Alors, effectivement, comme vous venez de les dire, la Chine était déjà depuis 10 ans les premiers marchés automobiles mondiaux, les premiers producteurs mondiaux, sauf que cette production était jusqu'à assez récemment contrôlée par des constructeurs étrangers qui avaient très peu d'intérêt à développer les exportations, étant donné que les marchés chinois est très profitable et en forte croissance. Sauf que, avec l'électrification, la donnée change. Et donc, l'électrification, contrairement à ce qui se passe par exemple en Occident, en Europe notamment, n'est pas seulement conçue en Chine comme une politique environnementale qui vise à décarboner les transports ou à verdir l'industrie, une industrie automobile existante, déjà en place, mais c'est essentiellement et principalement une stratégie industrielle qui vise à créer un nouveau secteur. Et donc, depuis 10 ans, ce sont des centaines de milliards d'euros, donc des sommes très considérables qui ont été injectées par l'État chinois dans la structuration de ces nouveaux secteurs stratégiques.
Que sont donc les voitures électriques?
Les voitures électriques, exclusivement dédiées à la production des véhicules électriques, batteries, tout y est dedans. Et donc, cela a conduit à l'émergence des nouveaux constructeurs qu'on ne connaissait pas auparavant, les BYD, qui est devenu le premier constructeur mondial des véhicules électriques devant Tesla en 2023, aussi premier constructeur par part des marchés devant Volkswagen en Chine en 2023. Ce sont les Geely, déjà propriétaires des Volvo, partenaires stratégiques des Renault, premier actionnaire des Daimler, dont la marque Polestar a connu un très grand succès en Grande-Bretagne l'année dernière. Ce sont les Chery qui vient d'annoncer qu'il produira en Europe ses véhicules électriques.
Ce que je comprends en vous écoutant, c'est qu'il y a de plus en plus de marques chinoises de voitures électriques. J'ai cru comprendre également que la force des Chinois, c'est qu'ils sont capables de concevoir des voitures beaucoup plus rapidement que les constructeurs occidentaux.
Oui, en fait, les constructeurs occidentaux ont un handicap, c'est-à-dire ils doivent se débarrasser de leur partie thermique, qui est encore profitable, pour développer leur partie électrique, mais elle n'est pas encore. Et donc, cela les conduit la plupart du temps à développer des versions électrifiées de leurs véhicules thermiques.
Ah oui.
ce qui fait des véhicules assez lourds, assez chers et pas très performants. Alors que les constructeurs chinois n'ont pas cet handicap. Et donc, ils ont une capacité des frappes en termes de développement des véhicules électriques qui est beaucoup plus importante. Donc, voilà. Ils ont des gammes plus élargies, des volumes plus importants, etc.
Et c'est ce qui fait donc de la Chine aujourd'hui le premier pays exportateur mondial de voitures. Merci Thomas Sopardi. Il y avait encore plein de choses à raconter, bien évidemment. Mais merci de vos précisions et de votre analyse. Je remercie Ousmane et je lui souhaite une bonne fin de nuit dans le New Jersey aux États-Unis. 10h30 ici à Paris.